9h-10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et l'imam Abdelali Mamoun qui vous donne rendez-vous tous les jeudis. Ça, c'est le rendez-vous toute l'année, 9h-10h, 1 heure pour parler d'islam avec l'imam Abdelali Mamoun qui, je ne vous le cache pas, ce matin, a eu du mal à tomber du lit.
Oui, effectivement, alhamdoulilah, c'est vrai, parce que c'était compliqué suhur le matin avec salat sobh. On s'est séparés vers les coups de minuit, Philippe.
Hein, c'est vrai. Je ne voudrais pas trahir un secret, oui.
Voilà. Donc ensuite, il y a le suhur, voilà, puis un peu de.
Vous avez mis le réveil à quelle heure ce matin?
Comment?
Vous étiez à quelle heure pour votre réveil?
J'ai dû dormir 2 heures la nuit, ouais. et après le fajr, j'ai dû dormir, bah là à peu près.
C'est toujours la nuit, hein.
Non, ouais. Je veux dire la nuit, oui, avant le fajr. Ouais. Ce que j'appelle la nuit, c'est ce qui est avant le fajr. Hein, par rapport au nom qu'on donne en islam.
Donc vous avez facilement 4 heures de sommeil dans
dans les pattes. Quelque chose comme ça, voilà, autour de 4 heures. Et c'est vrai que c'est pas très...
Bon, c'est le cas de tout le monde, c'est en fait. Hein. Et c'est vrai que la vraie problématique à gérer pendant le mois du Ramadan, c'est en plus de la soif et de la faim, c'est cette question de sommeil. Et les gens sont toujours en train de bricoler, de récupérer 15 minutes par-ci, 15 minutes par-là, et...
Mais il y a aussi le problème de découpage. C'est-à-dire que ça n'a pas une période suffisamment longue pour avoir ce qu'on appelle un sommeil réparateur. C'est du bricolage, on est en train de découper notre sommeil, et ça, c'est pas très bon pour la santé, à mon avis.
Chez une spécialiste, on va la faire venir sur le sommeil, de savoir comment on peut optimiser ce temps de récupération pour avoir finalement les 8 heures de sommeil par jour. Hein.
Oui, mais il y a cette période dans la nuit où il faut véritablement... pratiquer ce sommeil réparateur. On a besoin de ce sommeil qui va permettre de rétablir notre métabolisme, mémoriser ce qu'on a appris la veille, etc. Il y a ces 4 heures, je crois, il me semble, de sommeil profond nécessaire à la récupération totale de nos capacités.
Voilà, l'imam Abdelali Mamoun qui donne de son temps pendant le mois de Ramadan, puisque vous êtes là tous les soirs à partir de 20h, et que l'ADEN, je le rappelle pour tous ceux qui ne le savent pas encore, mais que l'ADEN est en direct tous les soirs, enfin en tout cas aux horaires de Paris, hein, vous pouvez l'écouter si vous n'habitez pas à Paris, mais pour les horaires de Paris.
Pour les autres en province, surtout dans le sud de la France, eux c'est déjà l'ADEN depuis quelques minutes déjà, ils sont déjà devant, en train de manger, mais il n'y a pas de problème, vous pouvez nous écouter... et notamment les quelques questions qui sont posées avant, et profiter des connaissances et de la dimension spirituelle et surtout conviviale. Hier, c'était particulièrement frivole, notre soirée avec Maëva et Petit Sam, etc. C'était sympa. Moi, j'ai apprécié la soirée
conviviale. C'était le girl power hier soir.
Voilà, c'est ça. Girl, voilà, exact. Power, mais vraiment...
On aurait dû filmer le dîner, hein, parce qu'on n'était pas en majorité. Bien, vous pourrez poser toutes vos questions à l'imam Abdelali dans un instant, 01 53 48 3000. On est rentré donc dans ce qu'on appelle la deuxième décade du mois du Ramadan, puisqu'aujourd'hui c'est le 11e jour de ce mois de Ramadan, imam Abdelali. Et donc cette décade s'appelle la décade
Du pardon.
Du pardon.
Voilà. Donc la première c'était la miséricorde, donc awwaluhu rahma, dit le prophète sallam, wa awsatuhu maghfira. Hein, la deuxième décade c'est la décade du pardon. Hein, puisque c'est l'occasion pour se faire pardonner ses fautes et ses péchés et d'obtenir d'Allah Azza wa Jal une absolution totale des fautes qu'on a pu commettre dans le passé. Le prophète Aslam dit wa ramadanu ila ramadan kaffaratun lima baynahuma. D'un ramadan à un ramadan est une absolution entre les deux. Hein, c'était comme une manière d'absoudre ses péchés, ses fautes qu'on a pu commettre entre les 2 années qui se sont suivies dans lesquelles on a pu commettre des excès ou certaines négligences.
Alors, on est dans ce mois donc du Ramadan. Est-ce que, Imam Abdelali, c'est un mois de conquête et de guerre, et est-ce qu'il y aurait une recrudescence et un climat favorable à la violence pendant ce mois ?
Oui, effectivement. Donc c'est cette première question qui fâche, qui est important à évoquer tous les jeudis matins, comme on a l'habitude de le faire, Philippe. En effet, beaucoup de gens pensent que le Ramadan est propice à la violence, aux actes terroristes, soi-disant à des actes ce qu'ils peuvent appeler comme étant liés à la gloire de Dieu, à la gloire de son prophète, à la gloire de la religion, etc. Et blablabla. Et tout cela, bien sûr, est totalement biaisé, totalement instrumentalisé. Bien sûr que non, le Ramadan est propice au repli spirituel, à la retraite spirituelle. Le Ramadan est propice à promouvoir la solidarité, l'amour, la fraternité, promouvoir la paix, bien entendu. Donc, à partir de là, tous ceux qui disent que bon, le ramadan, il y a eu ceci, il y a eu cela. Oui, le ramadan, il y a eu les conquêtes. Il y a eu certaines victoires qui ont été accomplies.
Des grandes batailles de.
Oui,
de...
mais c'est parce que l'ennemi menaçait la communauté musulmane, ou parce que, en ce mois béni, les adversaires du prophète ont violé les pactes de paix, notamment, par exemple, quand on parle de Ramadan, on parle souvent de la conquête de la Mecque. Un Fath Makkah a eu lieu le 10e jour, c'était hier, l'équivalent, son anniversaire, de la conquête de la Mecque. Donc le moment où est-ce que le prophète est rentré à la Mecque conquérant, c'était le 10e jour du Ramadan, il était en jeûne, et quand il est rentré, il n'est pas rentré en dictateur, en dominateur, en guerrier conquérant, il est rentré à la Mecque en prosternation, en toute humilité, il remercie Allah Azza wa Jal. Mais c'est vrai que certains compagnons ont profité de l'opportunité pour dire, ouais, aujourd'hui nous allons nous autoriser, c'est-à-dire à profaner le caractère sacré de la Mecque, comme le disait Ansari, al-yawm yawm al-malhama, al-yawm yawm tustahallu fihi al-Ka'ba. Aujourd'hui nous allons profaner la Ka'ba, et aujourd'hui c'est le jour de la boucherie, nous allons rendre les comptes à ses ennemis, à ses adversaires qui nous ont combattus alors qu'ils étaient pendant le mois du Ramadan. Le prophète a corrigé cette erreur de ce compagnon, il a dit bal al-yawm yawm ar-rahma al-yawm tu'azzu fihi al-Ka'ba. Il a dit c'est le jour de la miséricorde et c'est le jour où nous glorifions et que nous donnons toute sa sacralité et pleinement à cette Ka'ba qui a été souillée par ses idoles et que le prophète va purifier en débarrassant la Ka'ba, le sanctuaire sacré des Arabes, hein. C'était pas encore le sanctuaire des musulmans, c'était le sanctuaire de tous les Arabes et qui va devenir bien sûr le sanctuaire de tous les musulmans du monde. Donc il va le purifier, il va lui rendre son unicité et son monothéisme pur d'origine, puisqu'on sait que celui qui a construit la Kaaba, c'est Ibrahim alayhi salam. Et qu'Ibrahim alayhi salam, quand il a construit pour plaire à Dieu et adorer un seul Dieu, un sanctuaire pour honorer et glorifier qu'un seul Dieu. C'est après que les choses se sont gâtées et que des gens en ont profité pour y ajouter des idoles et des divinités autres qu'Allah Azza wa Jalla. Donc il a finalement rétabli les choses à leur origine, et que cette conquête-là, que disait ce compagnon comme étant un jour de boucherie, de massacre et de vengeance, eh bien le prophète l'a transformé en un jour de miséricorde. En effet, lors de cette conquête, il aurait pu effectivement, alors qu'il est venu conquérant, il vient avec 10 000 hommes lourdement armés et capable de décimer toute la population mécoise, il les réunit autour dans le sanctuaire de la Mecque. Il aurait pu transformer ce sanctuaire en un bain de sang. Et il dit, que pensez-vous que je veux faire de vous? Il dit à ces hommes et ces femmes non musulmanes, à ces mécréants, à ces ennemis, à ceux qui avaient mis sa tête mise à prix, à ceux qui n'avaient pas cessé de le persécuter, de le combattre. Il leur dit, au moment alors qu'il a la capacité de se venger, il leur dit, que pensez-vous que je veux faire de vous? Et là, ces hommes et ces femmes non croyants, ces idolâtres, ces mécois, ces Quraysh, comme on dit en arabe, hein, lui dire, tu es généreux et fils de généreux. Antal Karim ibn al-Karim. Et là, le prophète leur dit, idhabu fa antum at-tulaqa. Hein, partez, vous êtes libres. Je vous donne la liberté. Il leur dit pas, il leur impose même pas de se convertir en islam. Il leur dit, vous êtes libres. Faites ce que vous voulez. Hein, vous êtes libres. Khalas, on arrête les hostilités. C'est fini. Mais quoi, Médinois, les Arabes, je veux plus de guerre. On cesse tout cela. Donc, la conquête de la Mecque est véritablement le jour de la paix, l'armistice du monde arabe. Puisqu'on sait que toutes les Arabes, les tribus arabes qui s'entre-déchiraient avant l'avènement de l'islam, ce qu'on appelle la période de l'Jahiliya, eh bien, grâce à la conquête de la Mecque, eh bien, a provoqué cet armistice général, cette réconciliation des peuples, des nations et des tribus arabes, alhamdoulilah, jusqu'à voir même s'imposer en dehors de la péninsule arabe et pour imposer la liberté de conscience, la liberté religieuse et rendre à tous ces peuples qui avaient été opprimés par ces dirigeants et par ces dictateurs, eh bien, leur totale liberté de croire ou de ne pas croire, de pouvoir décider de qui serait à la tête de leur nation et de leur on va dire institution. Et grâce à cela, eh bien, l'islam est venu révolutionner la réalité du Moyen-Âge, du 7e siècle, on parle, et redonner et sauver les peuples de l'oppression des tyrans et autres dictateurs. Voilà, voilà la réalité de ce qu'est le mois du Ramadan. Le Ramadan, c'est le mois où est-ce que Dieu comble l'humanité de sa miséricorde et de sa bonté pieuse. Voilà, voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a eu la bataille de Badr.
Mais, oui, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, il y a cette grande bataille.
La bataille de Badr, le 17e jour, effectivement, du Ramadan. Hein, c'est l'anniversaire, si on peut citer. Mais je rappelle encore, il s'agissait simplement, à l'origine, d'une simple petite expédition dans laquelle le prophète voulait récupérer une caravane dans laquelle tous les biens des musulmans avaient été rassemblés pour être vendus aux enchères. En Chem, c'est-à-dire en Syrie. Et pour cela, il fallait que cette caravane, dans laquelle se trouvaient tous les biens des musulmans qu'ils avaient laissés derrière eux, hein, au moment de la Hijra, au moment de leur immigration, parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils étaient obligés de partir en catimini, donc de laisser tous leurs biens derrière eux, eh bien les Mécois en ont profité pour regrouper ces biens et les vendre au Chem, c'est-à-dire en Syrie. Et cette caravane est passée justement près de Médine, pour arriver, parce que le Mécois est au sud de Médine, ils sont obligés de passer par Médine, au nord, pour aller se diriger vers le Cham. Eh bien, le prophète a essayé de récupérer ses biens, tout simplement. Mais ce qui s'est passé, c'est que, Abu Jahl en a profité pour faire venir toute une armée, lourdement armée jusqu'aux dents, pour essayer d'en découdre avec le prophète et ses compagnons. Et il y a eu cette bataille qui...
Et Abu Jahl, c'est...
Le fameux Abu al-Hakam, l'un des pires ennemis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ne pas confondre avec Abu Lahab, qui est l'oncle du prophète. Là, c'est Abu Jahl, c'est le nom de ce leader mécois, Qurashi, qui en voulait mais à mort au prophète sallam. On ne sait pas pourquoi. En tout cas, il y a un compagnon qui lui a posé la question, mais qu'est-ce que tu en veux? Pourquoi tu t'acharnes contre Mohammed de cette manière-là? Et là, lui dit, tu savais que nous, les Banu Makhzoum et les Banu Hashim, nous avons toujours été en rivalité. On est toujours en rivalité, on était dans la concurrence à qui serait la tribu la plus noble des deux. Et eux, ils nous ont dépassés grâce à la prophétie. Ils sont passés devant, ils ont eu un cran devant. Et ça, je ne l'ai pas admis. Il a dit ça, je ne l'ai pas admis. Je n'ai pas voulu l'accepter. Donc, je lui ai fait la guerre. J'ai trouvé ça injuste que ça soit de chez eux, de leur tribu, des Banu Hashim. Vous voyez, rien que pour
un respect tribal. C'est une question tribal, de fierté.
De fierté tribale, absurde, et d'orgueil et de prétention que cette personne-là, malheureusement, s'est égarée par lui-même et a provoqué sa propre perdition, puisqu'il meurt lui-même lors de cette bataille de Badr. Wal'iyadu billah. Donc voilà.
Et combien de personnes ont participé à cette bataille?
Alors, les musulmans étaient que 314. Alors que les autres, les idolâtres, étaient presque 1000. Hein, c'était trois fois plus nombreux. C'était vraiment, là, une expédition punitive. Là, c'était vraiment pour aller définitivement se débarrasser, parce que trois fois plus nombreux, c'était véritablement... l'idée, c'est de faire un carnage, de ne pas laisser de prisonniers et de décimer le prophète et tous ses compagnons. Bon, alhamdoulilah, la bataille s'est bien terminée, puisque le prophète en est sorti vainqueur, et c'était une bataille qui a abouti effectivement à redonner une image des musulmans beaucoup plus dissuasive dans la péninsule arabe, que ceux qui essayaient à se titiller, à essayer de se confronter au Mohammed, ben il les laisserait des plumes. Voilà le message de cette bataille, c'est qu'elle soit dissuasive, qu'elle évite au contraire encore plus de conflits, parce que beaucoup d'autres tribus, les Banu Ratafan, les Banu Asad, qui étaient des immenses tribus très puissantes, en voulaient aussi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et voulaient en découdre avec lui. Mais quand ils ont vu que Quraysh n'ont pas réussi, et même avec 1000 hommes, avec trois fois plus d'ennemis, eh bien, ils ont dit, oh ben, on va y réfléchir à deux fois avant de nous en prendre à Mohammed Sassalem, qui semble être soutenu par une force surnaturelle, qui est bien sûr divine. Effectivement, puisque dans le Coran lui-même, Dieu dit qu'il a envoyé plus de 5000 anges pour soutenir le prophète, pour combattre avec lui et le soutenir et empêcher Quraysh de le décimer. Donc, il était dans une démarche de légitime défense. Hein, nous sommes plutôt aux portes de la Médine. Badr est à quelques dizaines de kilomètres de Médine. Uhud, l'année suivante, c'est encore aux portes de Médine. C'est toujours dans une situation défensive que le prophète affronte ses ennemis, et non pas, il n'est pas dans une démarche conquérante dans laquelle il cherche à envahir autrui et à, comme le pensent certains, utiliser ce mois du Ramadan pour anéantir et tuer les non-musulmans. Au contraire.
Bien. Alors, Imam Abdelali, je vous rappelle que vous poserez vos questions à l'imam sur le Ramadan et toutes les questions que vous voulez au 01 53 48 3000. Deuxième thématique de cette émission. Comme vous le savez, chaque semaine, nous abordons une profession au regard de l'islam. Mais cette semaine, ce n'est pas vraiment une profession, Imam Abdelali, puisque nous nous intéressons à ceux qui s'engagent, et ils sont très nombreux pendant le mois du Ramadan, sur le terrain, les bénévoles, hein, ceux qui sont dans toutes ces associations et qui permettent effectivement toute l'année à certaines personnes qui sont dehors, non seulement d'être nourries, d'être logées. Donc on parlera d'eux dans un instant.
Mais pas seulement, il y a plein d'autres. Il y a des associations écologiques, protection des animaux, il y a beaucoup d'associations, on va dire, non lucratives.
01 53 48 3000.
9h-10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM. 9h-10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, tous les jeudis, l'imam Abdelali Mamoun vous donne rendez-vous entre 9h et 10h, une heure pour parler d'islam pendant le mois de Ramadan. Un autre rendez-vous à Allo l'Imam, donc entre 20h et 21h30. C'est même son émission qui se rallonge finalement tous les jours.
Oui.
D'habitude, elle se raccourcit. Je sais pas, les autres années, plus on va dans le Ramadan, plus l'émission sera courte. Cette année, elle sera longue.
Eh ben, c'est tant mieux.
Donc, on finira peut-être la fin du mois aux alentours de 22h. Je vous rappelle que l'ADN est
22h moins 10, plus exactement.
Voilà. Et ce soir, c'est 21h30 que vous ferez l'ADN en direct. On parle d'une profession. Alors, c'est pas une profession, même si beaucoup de ceux qui sont des bénévoles le font de façon très professionnelle. Hein. C'est vraiment un engagement et c'est vraiment très professionnalisé que le bénévolat. Quelles sont les règles qui régissent le bénévolat, Imam Abdelali ?
Être bénévole, c'est s'engager librement pour mener une action non salariée, non lucrative, en direction d'autrui ou en direction de l'environnement dans lequel on est. Mmh. Ça peut être une association de locataires au niveau local, au niveau quartier, au niveau national, au niveau international. Ça peut être de l'humanitaire, ça peut être des actions qui encouragent la protection de l'environnement, etc., etc. Il y a énormément de domaines de bénévolat et d'activités non lucratives et qui peut être menée par tout un chacun et que l'islam encourage, effectivement. L'islam encourage et c'est cette participation, cette contribution de tout un chacun à agir de manière, on va dire, désintéressée et simplement pour faire le bien, pour accomplir le bien. Dieu les appelle dans le Coran les bienfaiteurs, al-muhsinin, hein, ceux qui sont dans le ihsan, dans cette bienfaisance, et dans cette bonté pieuse d'être de donner gratuitement sans en chercher une récompense à part celle de Dieu dans l'au-delà et d'obtenir sa satisfaction dans l'au-delà. Donc le bénévolat est quelque chose qui est encouragé en islam et qui est encouragé pour que tout un chacun de manière collective contribue au bien-être et notamment de ces créatures qui peuvent faire l'objet de crises, de fragilités telles que l'environnement. On parle beaucoup de problèmes écologiques, on parle aussi de problèmes de pauvreté, de misère, de beaucoup de personnes qui font l'objet de difficultés et qui ont besoin d'aide, telles que les handicapés ou les personnes âgées, etc. Et il y a beaucoup d'associations qui vont dans ce sens pour aider ces personnes un petit peu négligées. Et donc, en islam, il est encouragé. Maintenant, il faut, en effet, respecter un certain nombre de règles, notamment, par exemple, sur le choix de l'activité bénévole, de cette profession non lucrative, et de faire en sorte qu'elle soit d'intérêt collectif et non pas pour, on va dire, discriminer ou avantager une catégorie d'individus par rapport à d'autres. Par exemple, une association qui aiderait exclusivement les pauvres de couleur noire ou de couleur arabe ou asiatique. Non, bien sûr que non. Quand on parle d'aide aux personnes démunies,
c'est l'universalité qui est importante.
Il y a une notion d'universalité. La pauvreté n'a ni aucune religion, aucune race. Et donc, à partir de là, le musulman qui s'engage, le citoyen en général, doit s'engager de manière universelle dans cette démarche humanitaire. Elle doit aussi être dans l'objectif de rétablir ou d'apaiser des crises d'injustice sociale, hein, et non pas, par exemple, d'encourager une discorde ou d'encourager une soi-disant injustice que subirait, je dis bien au conditionnel, une population ou une région dans un pays lambda. Une fois, il y a une dame qui m'appelle, elle me dit, voilà, moi, je suis engagé bénévolement, elle me dit bénévolement, pour aider une tribu pakistanaise qui fait l'objet d'une persécution de la part du gouvernement pakistanais. Je vérifie sur Internet qu'est-ce que c'est que cette région. Il s'agit des trois quarts du pays qui porte un nom, un autre nom, je me rappelle plus comment s'appelle cette région au Pakistan, et qui est dans une démarche d'autonomie, c'est-à-dire qu'elle est là
oui,
pour,
c'est pas...
voilà, c'est, elle est dans une démarche, c'est purement politique, c'est voilà, et pourtant ce peuple-là n'est pas un peuple loin d'être persécuté, simplement ce sont des non-musulmans et qui refusent soi-disant ce régime islamiste pakistanais, etc. Et cette dame-là, finalement, elle militait non pas pour aider les pauvres et les nécessiteux ou les persécutés de ces régions-là, mais d'abord pour finalement, et elle venait m'appeler pour me demander le soutien, mon soutien. Je dis, mais madame, remettez-vous en cause. Là, il s'agit de quoi? Ces personnes-là, est-ce qu'on leur impose la religion musulmane? Elle dit non. Ben alors, il est où le problème? Il me dit, oui, mais ces gens-là, ils demandent leur indépendance depuis... Et pourquoi ils devraient avoir leur indépendance? C'est comme si demain, les Bretons... on pourrait faire une action de bénévolat pour que les Bretons puissent obtenir leur indépendance. Est-ce que c'est forcément utile pour le bien-être des Bretons eux-mêmes et des Français en général? Je suis pas sûr. Donc là, on est purement dans une spéculation politicienne dans laquelle le choix de cet activisme bénévole n'est pas forcément dans l'intérêt collectif et utile à la société. Donc c'est important de réfléchir sur le choix de l'activité que l'on veut mener. Aussi, bien sûr, celui qui est dans l'action du bénévolat doit être dans cette rigueur et dans cette intégrité extrêmement rigoureuse de respecter l'amana, parce que les biens et les aides que l'on va obtenir, il faut bien comprendre qu'elles ne sont pas pour vous. On ne vous les donne pas pour que vous les gardiez, vous les mettez dans votre poche. Hein, et il faut vraiment comprendre que quand vous mettez l'argent, par exemple, de donateurs qui offrent quelque chose pour les nécessiteux, et que vous les mettez dans votre poche, c'est pire que de voler des gens riches et des bourgeois, par exemple. Là, vous volez des pauvres, puisque c'est leur argent que vous mettez dans votre poche. Il n'y a pas plus détestable et horrible que de voler des pauvres. Déjà qu'ils n'ont rien à manger, si en plus toi tu vas leur prendre leur gagne-pain, le peu qu'on a pu récolter pour qu'ils puissent se nourrir, toi qu'est-ce que tu fais? Tu les détournes et tu t'empiffres et tu fais des détournements de fonds de biens publics, mais surtout de publics pauvres. Et donc à partir de là, Allah Azza wa Jal bien sûr condamne cette forme de spoliation. Hein, il dit wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, ne vous accaparez pas les biens des uns des autres de manière injuste, de manière fausse. Donc si effectivement dans cette action de bénévolat vous avez un droit à être dédommagé, par exemple du transport ou des minimums
oui,
nécessaires,
y a des avantages, oui,
par exemple le fait d'être entretenu de la nourriture, etc. Oui, pourquoi pas, parce que vous êtes dans une activité, mais vous ne devez surtout pas abuser de cela pour essayer de vous enrichir et de vous accaparer les biens des pauvres. Donc, tout cela, bien sûr, je pense que le bon sens le comprend très très bien. Il est inutile d'évoquer que cela est une règle islamique, mais c'est tout simplement une règle morale universelle et qui n'est pas forcément réservée au précepte et à la morale islamique. Donc voilà en gros ce que je voulais dire sur ce bénévolat. Il y a peut-être plein d'autres choses à dire, mais...
Mais est-ce qu'il y a des récompenses finalement à s'engager et de faire de l'altruisme?
Bien sûr, l'altruisme en islam est quelque chose de particulièrement apprécié par Allah Azza wa Jal. La finalité même de l'adoration, de la relation verticale que l'on a avec son créateur, c'est justement d'être en harmonie avec la création et dans une relation horizontale avec le reste de la création, de manière bienfaisante et bienfaitrice, et qui donc aboutit à ce que nous soyons de bons et de généreux membre de la communauté internationale et des éléments utiles et bienfaiteurs à cette communauté internationale. Je dis bien universel. Moi, je voudrais aussi condamner nos frères, parce que là, je voudrais vraiment m'adresser à mes frères musulmans, et notamment à ces cadres musulmans, les imams, les responsables religieux, les directeurs d'institutions musulmanes, des présidents d'associations, etc., qui agissent pour aider les pauvres, mais ils sélectionnent d'abord ceux qui sont musulmans. C'est quoi ce délire? Je ne comprends pas, moi, comment on peut avoir cette idée de dire, moi, je veux faire du bénévolat pour aider mes frères musulmans. Ou alors l'okhrin, c'est quoi? C'est des chiens. Les autres, c'est des animaux. Et même si c'est des animaux, ils n'ont pas besoin, ils ne méritent pas ton aide. Subhanallah. Je ne comprends pas cette sélection, ce sectarisme, ce communautarisme humanitaire que l'on a chez nous dans notre communauté musulmane, où l'on privilégie l'aide des musulmans. On va aider les Rohingyas, on va aider les Bengalis, on va aider les Éthiopiens musulmans, où il y a des tribus musulmanes. Mais les autres, c'est quoi qui crèvent de faim? Ces pauvres miséreux qui crèvent dans le monde et qui, eux, ne sont pas musulmans. Ils n'ont pas le droit aussi à notre aide. C'est incroyable. Comme si que le Coran avait dit, il faut aider les pauvres musulmans. Où est-ce que vous trouvez ça dans le Coran? Dieu, il dit, donnez aux pauvres. Innama as-sadaqatu lil fuqara'i. Il n'a pas dit fuqara' al-muslimin. Ou al-masakin. Il n'a pas dit masakin al-muslimin. Il a dit al-fuqara' ayyan man kan. Quand des hommes venaient tendre la main au prophète, ils disaient Ya Rasulallah, donne-moi. Au prophète, donne-moi. Ou au Mohammed, donne-moi. Il lui disait pas, est-ce que tu crois en moi? Est-ce que tu crois en l'islam? Pour que je puisse te donner. On a même des fatwas qui interdisent de donner à des non-croyants. Mais c'est incroyable comment on peut avoir cet état d'esprit et comment peut-on penser que l'islam est une religion qui ne pourrait profiter qu'aux gens qui y adhèrent. C'est totalement absurde. L'islam, je le rappelle, est une miséricorde pour les mondes. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous ne t'avons envoyé que pour être une miséricorde pour les mondes, pour les sociétés, pour l'univers tout entier. Même si demain il y avait des martiens pauvres, eh bien on devrait être miséricordieux à l'égard.
Alors c'est pas forcément c'est une créature de Dieu. Les martiens, c'est pas les mêmes émissions.
Je dis bien supposons.
C'est pas la même émission.
Non mais je tire la barre très haut, Philippe. Je dis même si on devait trouver d'autres créatures ailleurs qui seraient en difficulté, on aurait nous en tant qu'humains et musulmans l'obligation de les aider parce que ce sont des créatures de Dieu.
Bien.
Je fais plus fort que Vanessa.
Là. Ah non, mais là.
Je me limite au terrien.
Elle est battue sous plate couture. Il fallait le faire et vous l'avez fait ce matin.
Inchallah.
Imam Abdel Ali. Bien, histoire d'un verset tout à l'heure, après une courte page de publicité, verset 45, sourate 2. Un verset qui parle notamment de ce voyage nocturne, Imam Abdel Ali. Je rappelle que vous pouvez intervenir et interroger l'imam en direct au 01 53 48 3000. Proposez-lui, puisque c'est calme ce matin, pour lui poser toutes vos questions. 01 53 48 3000.
9h-10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM. 9h-10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et l'imam Abdelali Mamoun qui répond à vos questions. 01 53 48 3000, profitez-en, le standard est à votre disposition. On accueille Amel. Amel, bonjour, bienvenue et bon ramadan.
Oui, bonjour, salam alaikum à tout le monde, les auditeurs, notre imam et vous-même, à toute l'équipe. Je vous appelle pour vous poser une question qui est un peu le sujet débat dans notre famille. À chaque ramadan, on se pose toujours la même question. Donc on est une grande famille, Allah ybarak, sauf qu'on habite tous à côté, mais chacun a son calendrier pendant le mois de ramadan. Mmh. Et du coup, y en a qui vont suivre le calendrier, c'est notamment pour la prière du matin, Salat al-Fajr, avec le degré à 12, d'autres 15, d'autres 18. Et pour le coup, chacun ne sait pas réellement lequel choisir, et on aurait voulu savoir quel était en fait votre statut là-dessus. Comment est-ce que vous...
Ma position, vous voulez dire?
Votre position, exactement.
Parce que moi, les statues, j'aime pas trop ça.
D'accord, alors votre position.
Oui, mais ça s'écrit pas de la même manière.
Non, mais.
C'est avec un E et alors que L, c'est avec un T.
Alors, mais pas les idoles, hein, Imam Abdel.
Voilà, j'aime pas les idoles.
C'est pour ça que vous n'allez pas au musée. Hein,
je suis iconoclaste.
Bien. Maintenant que vous avez été drôle, est-ce que vous pouvez répondre à la question d'Amel?
La réponse d'Amel. Ouais, effectivement, en France, historiquement parlant, on a eu un calendrier pendant longtemps qui avait été émis par la mosquée de Paris dans les années 70, qui était un calendrier qui était renouvelable, c'est une forme de carnet, qui était lui positionné à 15 degrés. On a toujours eu ça. Ensuite, la mosquée de Paris, je ne sais pour quelle raison, s'est endurcie et a décidé de modifier ce calendrier et de le positionner à 18 degrés. C'est-à-dire qu'il doit être encore plus tôt la nuit pour décider que l'aube était déclenchée et qu'il y aurait des rayons du soleil derrière l'horizon à 18 degrés qui pourraient être visibles dans le ciel. Je dis bien qu'ils pourraient, selon la position de la Terre, etc. Bon, c'est tout un paramètre géographique et même astronomique lié à la position du soleil derrière l'horizon, etc. Bon, ils ont décidé donc de modifier, d'être à 18 degrés. L'UIF, qui avait un conseil théologique européen, il s'est réuni avec le cheikh Mohamed Lahouari et plein d'autres, le docteur Mohamed Lahouari et d'un d'autres théologiens musulmans, mais en même temps qui sont des astronomes, se sont réunis et ont dit que non, l'aube ne peut apparaître que quand le soleil est derrière l'horizon à hauteur de 12 degrés. C'est-à-dire presque une demi-heure après le calendrier de la mosquée de Paris. Et c'est depuis cette date-là que nous avons maintenant pratiquement deux calendriers qui se sont répandus, sachant que l'ancien qui était à 15 degrés a complètement été, effacé, et que celui qui est répandu et diffusé par les imprimeries pour les mosquées, c'est celui de la mosquée de Paris ou celui de l'UIF, celui de ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant musulmans de France. Et entre les deux, on a pratiquement 33 minutes de différence, 33 à 35 minutes de différence. Et donc moi, je ne vais pas polémiquer pour dire c'est la mosquée de Paris qui a raison ou c'est l'UIF qui a raison, pour éviter ce genre, parce que d'abord, ça ne servira à rien, je ne pourrais pas imposer mon avis et mon arbitrage entre ces deux avis. Parce que d'abord je ne suis pas compétent, mais en plus je ne suis pas crédible. Mais pour répondre à votre question, le mieux c'est de prendre en compte le calendrier de la mosquée de proximité. Vous avez à côté de chez vous une mosquée. Dans cette mosquée, il y a un calendrier. Ils font la prière de l'Fajr à une heure précise. C'est cette heure-là que toutes et tous, vous dans votre famille, devez vous plier. Il n'est pas question que, parce que on vous avait reçu un calendrier dans une boucherie, etc., etc., vous devez aller à la mosquée, vous renseigner sur l'heure de l'Adhan al-Fajr dans la mosquée qui est celle, votre mosquée de référence à côté de chez vous, et vous demander l'heure. Et c'est cette heure-là que vous devez prendre en compte. Voilà. D'accord. Comme ça, tous les membres de la communauté locale prient ensemble et commencent ensemble le jeûne et interrompent le jeûne ensemble.
On va dire que c'est un peu parfait parce que les mosquées des alentours, c'est Choisy-le-Roi, Créteil, la vôtre aussi où vous étiez également imam à l'époque, je pense à Alfortville.
Alors à Choisy-le-Roi, il n'y a pas de mosquée encore.
Il y a quand même un lieu de rassemblement. Orly, exactement.
Alors par contre, les mosquées de référence, on peut dire les vraies, c'est Créteil. Moi je pense qu'à mon avis, c'est Créteil. Et Créteil suit le calendrier de la mosquée de Paris.
Je ne pense pas.
C'est vrai.
Un peu plus tard.
Oui, c'est RMF, RMF. Autant pour moi, je crois que c'est le calendrier de RMF. De musulmans de France. Oui, effectivement, vous avez raison. En tout cas, moi, je pense que le mieux dans votre région. Vous habitez où, vous avez dit?
Choisy-le-Roi.
Vous prenez le calendrier de la mosquée de Créteil. C'est très bien.
D'accord. Très bien. En tout cas, Mais comme on avait, ça m'a quand même donné le doute, le fait que je mange encore pendant la demi-heure après. Après, j'avais un petit peu.
Est-ce que dans la mosquée, vous rentrez à la mosquée de Créteil à cette heure-là et que si vous entendez le adhan de l'Fajr à l'heure qui correspond au moment où vous avez interrompu, vous n'avez pas commis d'erreur.
D'accord. Bon, mais en tout cas,
Que dans votre mosquée, il fasse l'adhan et que vous vous dites non, moi mon calendrier c'est ça et vous continuez à manger alors que vous entendez l'adhan, là non, ça c'est pas correct de faire ça.
D'accord.
Voilà.
Bon, mais en tout cas, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Pour cet éclaircissement, je vous souhaite donc à tous, encore une fois, un bon mois de Ramadan et que Dieu nous accorde sa miséricorde.
Barakallahu fik, akhti Karim. Allah yahfazek. Kuntum kadhalik Ramadan Mubarak Karim, à vous et toute votre famille et qu'Allah vous unisse dans le bien, Inch'Allah. Il ne faut surtout pas que la religion soit source de discorde, mais au contraire de rapprochement et de réconciliation.
Très bien, merci. Merci encore à vous.
Je vous en prie, ma sœur, au plaisir. Au revoir.
Merci, Amel. Alors, je voudrais, Imam Abdelali, qu'on revienne sur l'histoire d'un verset. Alors, effectivement, ce n'est pas le voyage nocturne dont nous allons parler aujourd'hui, mais la sourate, c'est donc l'agenouiller, c'est ça ?
Oui, c'est effectivement...
Al-Jatir. Non ? Comment vous dites ?
Comment tu dis ?
Bon, allez-y. Comment vous dites ?
Al-Jathiya, non, c'est la sourate 2, sourate al-Baqara.
Ah oui, j'ai pas la bonne sourate ce matin. Sur mes fiches ce matin, il m'a délit, j'ai pas du tout ça.
Alors moi, j'ai verset 45, sourate 2. C'est ce que j'ai
dit. Ah oui, vous m'avez envoyé l'envers.
Verset 45, sourate 2.
Alors on y va.
D'accord. Cette sourate 2, sourate al-Baqara, nous dit dans le verset 45, le verset suivant en arabe, je vais lire. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Et cherchez secours dans l'endurance et la prière. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les gens qui savent y trouver réconfort et concentration. C'est-à-dire ceux qui sont imprégnés d'humilité et qui sont humbles dans cette prière et qui y trouvent au contraire une source de jouissance spirituelle. Donc ce verset-là, le prophète alayhi salat wa salam, pour le mettre en pratique, témoignait, donc les compagnons témoignaient que quand le prophète alayhi salat wa salam faisait l'objet d'un souci, d'un problème, il allait se plonger dans une prière dans laquelle il allait essayer d'y trouver une solution, y trouver des ouvertures, trouver un réconfort, de trouver une aide auprès de son créateur Allah Azza wa Jal. Et c'est effectivement le fait que cette prière-là soit une aide que Allah Azza wa Jal a dit quand vous avez un problème, quand vous avez une difficulté. N'hésitez pas à accomplir deux rak'at. On appelle ça la salat al-hajj. Hein, beaucoup oublient cette sunna. Et moi, j'aimerais revivifier une sunna. Le prophète dit dans un hadith, « Man sanna fil islam sunnatan hasana » Celui qui revivifie une sunna, eh bien, l'on aura la récompense et la récompense de tous ceux qui la feront jusqu'au jour du jugement dernier. « Falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyama » Donc, moi, je voudrais revivifier cette sunna qui est la salat al-hajj, la salat du besoin. On a besoin tous les jours, on a des difficultés, on rencontre des contraintes. Et on a rarement l'idée de dire, bah tiens, je vais salat al-ka'atayn, salat al-haja, pour y trouver cette récompense et cette aide du moins venant d'Allah Azza wa Jal. Et bien sûr, Allah Azza wa Jal nous dit qu'en plus de la salat, il faut aussi s'imprégner de patience. Un compagnon qui s'appelait Abu Huraira, un jour a été vu par le prophète allongé sur le ventre, et il lui dit, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu es comme ça? Est-ce que tu es malade? Il a dit, oui, ya Rasulallah, je suis malade. Il a dit, lève-toi et prie, car la prière est une guérison. Qum fa salli fa inna fi salati shifa. Et plein d'autres cas où est-ce que des compagnons, quand ils apprenaient une nouvelle, un malheur, la mort d'un proche, etc. Par exemple, Abdullah ibn Abbas, quand il apprend la mort d'un frère à lui qui s'appelait Qatham. Hein, vous savez, moi, pas beaucoup de gens connaissent des noms de personnages. Cousin du prophète, hein, qui s'appelle Qatham ibn Abbas. Hein, le frère de Abdullah ibn Abbas qui est mort avant la mort de Abdullah ibn Abbas, donc il n'était pas très connu. Quand Abdullah ibn Abbas est mort, eh bien, il a prié deux rak'at pour y trouver le réconfort et la consolation nécessaire à supporter la mort d'un proche.
Voilà. Bien, on vous donne rendez-vous tout à l'heure, Imam Abdelali. On vous retrouve d'ailleurs à partir de 20h à Allo l'Imam. Vous poserez toutes vos questions, parlera des bons réflexes en naturopathie pendant le mois du Ramadan également. L'ADN est en direct à 21h30, donc on vous retrouvera avec beaucoup de plaisir tout à l'heure. Et demain, c'est Maître Serhan qui sera à votre place, en tout cas sur votre fauteuil, entre 9h et 10h. Très belle journée sur Beurre FM.
9h-10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM.